Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Cela peut sembler étonnant, mais dans la longue histoire des enfers, des paradis et des au-delà imaginés par toutes les civilisations depuis des millénaires, l'invention du purgatoire chrétien au XIIe siècle relève d'un certain progrès. Oui, un progrès, parce que malgré sa réputation austère et ses épreuves qu'on imagine longues et pénibles, ce purgatoire sauve littéralement les âmes des défunts de la damnation éternelle et leur permet d'accéder au paradis malgré les péchés, les erreurs et les errements de leur vie terrestre. Selon l'historien Jacques Le Goff, qui s'exprime au micro de Jacques Munier dans l'émission que voici, ce progrès était même en son temps une révolution qui n'était pas sans lien avec l'apparition de l'individu. Voici donc Jacques Le Goff dans Les Chemins de la Connaissance, Les Corniches du Purgatoire, c'est le deuxième volet d'une série de 5 émissions sur le thème de l'enfer et du paradis, une série diffusée pour la première fois sur France Culture en octobre 1995.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée.
Jacques Le Goff, l'invention du purgatoire au XIIe siècle constitue une véritable révolution dans les mentalités et vous avez même parlé du nouveau monde de l'au-delà, en référence évidemment aux grandes découvertes qui viendront plus tard.
Je crois en effet que, très tôt, les chrétiens se sont préoccupés du sort des morts dans l'au-delà et ont cherché un moyen pour ceux qui risquaient d'aller en enfer, de les tirer de cet enfer. On voit par exemple les appels à la grâce divine qui figurent dans les inscriptions funéraires. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, à supposer que certains morts puissent se racheter après la mort et par conséquent échapper à l'enfer et aller au paradis. Le christianisme, pendant des siècles, n'a pas su formuler, primo, la façon dont ce processus se passait et ensuite quel était le lieu où s'opérait ce rachat après la mort. Nous voyons que dès le 6e, 7e siècle, on imagine qu'il y a, en général, c'est un coin de l'enfer ou près de l'enfer, dans l'au-delà, que l'on appelle locus purgatorius, une sorte d'antichambre au paradis où ceux qui arrivent sans pouvoir être admis tout de suite ont la possibilité de se purger. Le mot purgatorius, qui m'a donné purgatoire, est très intéressant, me semble-t-il, parce qu'il est entre la purge et la purification. Ce sont les deux sens du mot. Il y a donc un élément en quelque sorte matériel dans le passage par le purgatoire. On est purgé de ses impuretés, de ce qui reste de péché. Mais en même temps, on acquiert progressivement un état de différent, un état de pureté qui permet d'être admis au paradis. Et puis, alors, ce lieu où l'on se purgeait, petit à petit, il s'est précisé. Dans le haut Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle, les solutions pour le situer, qui étaient d'ailleurs très proches l'une de l'autre, c'était ou bien un lieu particulier, plus ou moins proche de l'enfer, mais qui n'arrivait pas à être formulé comme un lieu spécifique, indépendant, ou plus volontiers la partie supérieure de l'enfer. Voyez-vous, l'enfer avait une partie supérieure où, au bout d'un certain temps, et après avoir subi diverses peines, on pouvait monter au paradis. Et puis, il y avait une partie inférieure, que l'on appelait en général, à proprement parler, la géhenne, où alors là, c'était fini pour l'éternité. Et souvent, dans l'imaginaire et dans les représentations iconographiques qui en ont été données, ce double enfer était représenté par l'existence d'un puits entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et puis, pour des raisons que j'ai essayé d'expliquer, qui sont multiples, complexes, un certain nombre de gens, cédant, je dirais, à une sorte de pression populaire, ce désir que soit bien reconnu par l'Église la possibilité, après la mort, de se sauver encore. Cela a abouti, dans la seconde moitié du XIIe siècle, à l'identification et à la nomination d'un lieu particulier, spécifique de l'au-delà, qui est devenu le purgatoire. Dès maintenant, je crois qu'il faut mettre l'accent sur un fait essentiel dont je dirais qu'il a sûrement beaucoup contribué à assurer le succès du purgatoire. C'est que quand on va au purgatoire, on est sûr d'être finalement sauvé. Le purgatoire, c'est un lieu d'où part un sens unique. Purgatoire, direction paradis. Pas de régression, on ne peut pas retourner ou aller rétroactivement, si je peux dire, en enfer.
Vous l'avez dit, le purgatoire a eu évidemment des antécédents. On peut aussi penser à ce qu'on appelait le réfrigérium, qui est une espèce de pré-paradis ou de limbe. Et comme ça s'est passé avec, évidemment, l'enfer et le paradis, il y a une version théologique et une version populaire. Alors là, en l'occurrence, vous dites que le purgatoire a correspondu effectivement à un besoin populaire. Il s'agissait effectivement contre l'éternité des peines et le côté désespérant de cet enfermement dans l'enfer jusqu'à l'éternité, de se ménager quand même un certain espoir.
Oui, vous voyez, et je crois que là, l'historien se trouve justifié, ces phénomènes n'appartiennent pas, si j'ose dire, à la religion et à son dogme. L'historien voit un certain nombre de phénomènes qui relèvent de son étude. Vous venez d'évoquer, vous avez eu tout à fait raison, le Saint d'Abraham et le Réfrigérium. Cela montre que à partir de la doctrine de l'au-delà et du salut qui se forme dès les débuts du christianisme, il y a eu de longs tâtonnements pour arriver à une image, je dirais, définitive, et surtout, ben, plus qu'image, je dirais, géographie. Parce que ce qui me paraît important, c'est une localisation de cet au-delà. La naissance du purgatoire se situe dans un effort d'une pensée localisée, et parmi les mouvements qui ont favorisé cette naissance du purgatoire, je crois qu'il y a l'intérêt croissant pour la cartographie.
le moine. Un usurier de Liège mourut à notre époque. L'évêque le fit expulser du cimetière. Sa femme se rendit auprès du siège apostolique pour implorer qu'il fût enterré en Terre Sainte. Le pape refusa. Elle plaida alors pour son époux. On m'a dit, Seigneur, qu'homme et femme ne font qu'un, et que, selon l'apôtre, l'homme infidèle peut être sauvé par la femme fidèle. Ce que mon mari a oublié de faire, moi, qui suis une partie de son corps, je le ferai volontiers à sa place. Je suis prête à me faire recluse pour lui et à racheter à Dieu ses péchés. » Cédant aux prières des cardinaux, le pape fit rendre le mort au cimetière. Sa femme élut domicile auprès de son tombeau, s'enferma comme recluse et s'efforça jour et nuit d'apaiser Dieu pour le salut de son âme par des aumônes, des jeûnes, des prières et des veilles. Au bout de 7 ans, son mari lui apparut, vêtu de noir, et la remercia. « Dieu te le rende, car grâce à tes épreuves, j'ai été retiré des profondeurs de l'enfer et des plus terribles peines. Si tu me rends encore de tels services pendant 7 ans, je serai complètement délivré. » Elle le fit. Il lui apparut de nouveau au bout de 7 ans, mais cette fois, vêtu de blanc et l'air heureux. « Merci à Dieu et à toi, car j'ai été libéré aujourd'hui. » Le novice. « Comment peut-il se dire libéré aujourd'hui de l'enfer, endroit d'où il n'y a nul rachat possible ?» Le moine. « Les profondeurs de l'enfer, cela veut dire l'âpreté du purgatoire. De même, lorsque l'Église prie pour les défunts en disant « Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, libère les âmes de tous les fidèles défunts de la main de l'enfer et des profondeurs du gouffre, etc. » Elle ne prie pas pour les damnés, mais pour ceux qu'on peut sauver.
Le purgatoire va apparaître en tant que lieu précis, spécifique, dans la seconde moitié du XIIe siècle, à la faveur, d'une part, d'un mouvement d'ensemble tendant à remplacer les réalités qui s'affrontent terme à terme contradictoires, blanc et noir, puissant et pauvre, clair et laïque, par des systèmes à 3 termes, avec un intermédiaire. Je crois aussi que certains progrès dans la réflexion mathématique, parce que il ne faut quand même pas oublier que cette élaboration théologique, dogmatique, du purgatoire a été faite par des clercs très savants. Saint Thomas, visiblement, n'aime pas beaucoup le purgatoire. Et il dit qu'il faut y croire, que c'est vrai, que ça a une fonction, que cette fonction, c'est dans certaines conditions de permettre à un certain mort d'échapper à l'enfer pour aller en paradis, mais que il faut pas trop chercher à savoir comment ça se fait, parce que c'est une croyance qui est pleine de superstition. Ce qui visiblement marque le dédain et la crainte d'un théologien très savant, très orthodoxe, bien qu'il étudie des difficultés avec l'Église, lui aussi, comme Thomas d'Aquin, vis-à-vis de la culture populaire et du côté populaire, folklorique, qui s'est manifesté à propos du purgatoire. Maintenant, si vous le voulez, on peut essayer d'expliquer, j'ai essayé d'un peu montrer cette genèse, à quoi ça sert le purgatoire et comment ça fonctionne. Un mort, il ne peut plus par lui-même gagner des mérites. Le mérite, et se débarrasser de ses péchés, c'est un mérite. Quand on est vivant, on peut le faire, par la confession, par le repentir, par la pénitence. Un mort, il ne peut rien faire de tout ça. Il a donc besoin des autres. Et le mort sort du purgatoire en ce qui le concerne, à condition qu'il soit sans péché mortel au moment de la mort. Mais il a besoin des autres, et en général c'est sa famille, c'est les corporations auxquelles il appartient, les confréries auxquelles il appartient, c'est l'Église, d'une façon plus générale, qui prie pour lui, qui font dire des messes, font des aumônes. Il y a donc ce que l'on appelle les suffrages, et vous voyez que le purgatoire a, je crois, eu un retentissement considérable, non seulement dans les esprits, et j'ai trouvé un texte dans lequel il y a cette phrase admirable que le purgatoire, c'est l'espoir. Mais en même temps, ça a modifié les relations sociales. Ça a créé de nouvelles solidarités. Certains historiens, et je l'ai fait en partie, ont insisté sur le fait que l'affirmation du purgatoire entraîne ou est liée à l'émergence de l'individu, à la notion d'individu. En effet, il faut remarquer que ceci est assez étonnant même, que l'on aille au purgatoire, parce que le purgatoire il existe entre la mort individuelle et le jugement dernier. Au jugement dernier, il ne restera plus que enfer et paradis. Le purgatoire s'évanouira. Pour aller donc au purgatoire, il faut que Dieu ait jugé le mort au moment même de sa mort. Et par conséquent, ce n'est plus à l'intérieur du jugement dernier collectif, mais c'est par un jugement individuel que le mort se trouve jugé. Le purgatoire, en effet, est lié au fait que c'est la mort de chacun qui devient quelque chose d'important. Et en ce qui concerne les croyances, les pratiques, les rituels de la mort, le purgatoire est un événement considérable. D'autre part, il faut, pour sortir du purgatoire, des gens. Je vous dis, c'est surtout le rôle de la famille, des confrères, de l'Église de façon générale, d'aider à en sortir. On n'en sort pas. On n'en sort pas tout seul. Et un remodelage des relations intrasociales se fait, me semble-t-il, autour du purgatoire et de nouvelles relations entre l'individu et les groupes.
Oui, vous évoquiez cette société qui semble appeler, disons, des intermédiaires entre les grandes oppositions de la féodalité. En particulier, vous évoquez aussi l'apparition d'un tiers-État et puis surtout aussi d'une classe bourgeoise qui commence déjà dans les villes à se manifester. Vous avez précisé donc que la notion de purgatoire avait entraîné ou favorisé l'émergence d'une notion de l'individu. Et il est vrai que le purgatoire suppose une certaine forme de responsabilité et de libre arbitre, puisque chacun, du coup, peut d'une certaine façon se racheter lui-même.
C'est là où je ne suis pas d'accord avec certains historiens qui ont justement insisté sur la force de l'individu telle qu'elle se serait affirmée à travers le purgatoire. Moi, j'insiste sur le fait que cela ne peut se faire que par une solidarité dans laquelle l'individu se trouve pris, mais où, il est vrai, il a plus d'importance qu'il ne l'avait dans les groupes sociaux, le lignage, avant cette période. Pour terminer, peut-être cette évocation de cet au-delà très particulier qu'a été le purgatoire, il faut voir aussi que il y a une notion de temps. De façon générale, je le rappelle, le purgatoire objectif, réel, se situe, il existe à la mort de chacun déjà, mais pour chaque homme et chaque femme, il dure de la mort individuelle jusqu'au jugement dernier. Mais, la plupart du temps, on dit les âmes, mais ce sont des âmes qui sont revêtues d'un certain corps, parce que dans le purgatoire, on subit des tourments, des tortures, des châtiments comparables à ceux de l'enfer. Simplement, c'est une condamnation à temps et non pas à perpétuité. Donc, on reste dans le purgatoire pendant une période qui est proportionnelle à deux choses. Et ici, vous voyez, nous retrouvons ce que vous évoquiez il y a un instant, la part de responsabilité individuelle, personnelle du mort, et la part de l'action collective de solidarité. Parce que le temps que l'on reste dans le purgatoire est proportionnel, d'une part, à la masse des péchés que l'on a encore à expier au moment de la mort. Alors, si on meurt avec deux ou trois petits péchés, on ne reste pas longtemps dans le purgatoire. Il semble que la plus petite durée qui existe dans le purgatoire, c'est 3 jours. Saint Bernard est considéré comme avoir fait 3 jours de purgatoire parce que il ne croyait pas à l'Immaculée Conception de la Vierge. Mais en même temps, l'Église rappelle que 1 jour dans le purgatoire est ressenti comme une durée d'une année sur Terre. Et puis, c'est proportionnel à l'intensité, à la fréquence des suffrages que font les vivants pour le mort dans le purgatoire. Importance des messes, des aumônes. Et on voit dans les testaments le testateur réclamer, et parfois, s'il est riche, laisser des sommes d'argent pour les payer, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de messes. Vous le voyez, le purgatoire est beaucoup plus important dans l'histoire en général et dans l'histoire religieuse en particulier. Et on ne peut pas parler du purgatoire sans ignorer ce qui a eu le plus de retentissement sans doute dans l'histoire. C'est que les chrétiens ont acheté le rachat du temps du purgatoire auprès de l'Église. Et c'est les fameuses indulgences. Et ceci, vous le savez, à un certain nombre de chrétiens, à la fin du Moyen-Âge, a paru de plus en plus insupportable. Ça a été véritablement un des aiguillons, une des causes qui ont amené la sortie de l'Église de Luther. Et les indulgences pour racheter le purgatoire ont été une des causes de la réforme.
Jacques Le Goff, on a vu comment l'enfer petit à petit s'est orienté vers une certaine forme de sécularisation, de laïcisation, qu'on a commencé à considérer qu'il était aussi bien sur Terre. On verra qu'avec le paradis également, ce mouvement se vérifie et que finalement l'aspiration au paradis va devenir, va se transformer, disons, dans une version laïcisée que sont les utopies. Et puis avec le purgatoire, on se demande, parce que on ne voit pas bien quelle pourrait être la version laïque du purgatoire.
Non, c'est même curieux, parce que au Moyen-Âge, certains, et parfois pas des moindres, dans l'Église, ont estimé que le purgatoire, on le faisait sur Terre, et que certain nombre d'épreuves que l'on subissait sur Terre était la forme du purgatoire. Oui, il y a une chose aussi amusante, mais non dépourvue d'importance, dont je n'ai pas parlé, c'est que la naissance du purgatoire a profondément changé la nature des revenants. Parce que Dieu permet aux âmes du purgatoire de revenir très brièvement sur terre pour exciter à les aider les membres de leur famille ou de leur confrérie qui les oublieraient, qui viennent leur dire « Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, je suis dans le purgatoire, je souffre, c'est pas rigolo. » Et à ce moment-là, l'Église a trouvé que les seuls revenants légitimes étaient les âmes du purgatoire à qui Dieu donnait en quelque sorte une permission. Laisser sortir de prison le temps d'aller susciter des soutiens, alors que les autres revenants devenaient des revenants illégitimes et condamnés.
Closing your eyes so you can see, so you can see.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 octobre 1995. Vous pouvez la réécouter en ligne sur l'application et le site de Radio France à la page des nuits de France Culture.